franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Le Panthéon en 1981, émission au fronton de laquelle on pourrait mettre cette inscription à ces grands hommes et à ses électeurs, François Mitterrand reconnaissant.
21 mai, 21 coups de canon pour saluer le 21e président de la République française. Il y a quelques minutes, la cérémonie du Panthéon. Sur place, Pierre Gans.
Oui, et c'est dès 16h30 que la foule avait commencé peu à peu à se masser sur les trottoirs, rue Soufflot. Vers 17h30, plus d'une demi-heure avant l'arrivée du président de la République, il était devenu impossible de trouver un centimètre carré d'asphalte libre. Certains brandissaient des roses, ou, moins nombreux, des drapeaux rouges. Beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes aussi, dans cette foule gaie, joyeuse, vivant intensément cet événement, dans ce peuple de Paris que François Mitterrand avait voulu rencontrer dans les rues du Quartier Latin. Seule fausse note, la pluie qui a marqué les dernières minutes alors que la foule reprenait en cœur la Marseillaise.
Au peuple de Paris et à ces grands hommes François Mitterrand reconnaissant, j'ajouterai bien à cette inscription ceci à Christian Dupavillon, la marche de l'histoire, reconnaissante. Bonjour à vous, Christian Dupavillon.
Bonjour.
Vous êtes l'un des principaux concepteurs, vous allez me dire le principal concepteur de cette cérémonie du 21 mai 1981. Alors, on vous connaît comme architecte, architecte de l'éphémère, des fêtes royales et pas seulement des bâtiments républicains. Mais vous êtes architecte dans cette période, entre le 10 mai 81, vous jouez un rôle dans la fête de la Bastille, et le 21 mai où vous êtes communicant.
Je ne suis surtout pas communicant, je suis architecte, je travaille à l'époque dans une revue d'architecture et le Parti Socialiste à l'époque m'avait demandé de collaborer pour le 10 mai, place de la Bastille. Donc j'avais apporté ma contribution dans l'organisation de cette soirée dite improvisée et quand il a été question de faire, d'organiser une manifestation au Panthéon, eh bien... Jacques Lang m'a demandé de faire des propositions donc à François Mitterrand, c'est ce que j'ai fait.
François Mitterrand va vous laisser la bride sur le cou, mais il est en même temps très attaché au rituel, certainement davantage que son prédécesseur à qui on applique l'image d'un monarque, l'homme des rituels royaux, c'est Mitterrand.
Certainement, mais jamais le Panthéon n'avait servi pour un jour aussi important. Et deuxièmement, jamais les chefs d'État n'avaient traversé la Seine pour aller sur la rive gauche. Donc là, il y avait quelque chose de complètement nouveau. C'était une idée de Claude Manseron d'aller au Panthéon ce soir-là et d'en faire un événement, j'allais dire, incontournable dans l'histoire du premier septennat.
Le Panthéon, alors vous allez rencontrer Léon Zitron. Monument historique, c'est pas du tout un homme d'architecture éphémère. Ce 21 mai, nous avons l'équivalent à la marge de l'histoire de Léon Zitrone, c'est...
En 1791, le corps de Voltaire fut exhumé enfin et porté à l'église Sainte-Geneviève. Et comme il était délicat de déposer Voltaire dans le cœur d'une église, Sainte-Geneviève prit dès lors le nom de Panthéon. Et dans la même année, le corps de Mirabeau y fut également déposé, car il convenait aussi d'honorer sa mémoire. Et quand 2 ans plus tard, on découvrit sa correspondance secrète, on le chassa du Panthéon, le jour même où Marat y faisait son entrée parce qu'il convenait aussi d'honorer sa mémoire. Ils se sont croisés dans l'escalier. Mais après Thermidor, tandis que les restes de Rousseau entraient au Panthéon, on en faisait sortir les cendres de Marat.
Le destin des morts du Panthéon est toujours aléatoire. Votre jugement d'architecte sur le monument ?
Vous dites que je suis un amoureux de l'éphémère, mais savez-vous que la première pierre a été posée devant un panthéon éphémère, puisque c'était une toile peinte qui était à l'échelle du monument. On n'avait pas encore construit le monument, mais on l'a inauguré, une toile peinte. Donc c'était de l'éphémère. Après ça, c'est devenu une église et puis bientôt un temple laïque.
Alors pendant que vous préparez cette journée du 21 mai, en quoi ? 4 fois 24 heures ?
3 jours. J'ai eu la commande 3 jours avant, donc il m'a fallu 3 jours pour monter une opération un peu complexe. Mais bien, à l'époque, comme je n'avais jamais monté une telle opération, j'étais assez naïf et voilà.
D'autres s'occupent de choses plus sérieuses.
d'autres sont
je veux
en train
dire des grands débats politiques parce que le climat est tendu, les orages menacent. Rocard dit il ne faut pas dissoudre l'Assemblée. Alors Mitterrand répond, il ne faut pas faire comme Rocard. Et puis Rocard dit, il faut dévaluer tout de suite de 10 ou de 15%, à quoi François Mitterrand répond qu'on ne dévalue pas un jour d'investiture et un jour de Panthéon.
Ça, c'était les discussions internes. Mais ce qui est resté, c'est surtout donc, ce premier jour, ces images du Panthéon.
Oui, enfin, ça, c'est vous qui le dites, parce que vous n'étiez pas dans la coulisse.
Je l'ai vu un peu, cette coulisse.
Les dirigeants de la droite ne freinaient pas nécessairement la spéculation sur le front.
Le socialisme, d'emblée, c'est la rupture de la confiance. C'est la chute du franc. Monsieur Mauroy a beau s'ingénier à rejeter la responsabilité de cette évolution sur ce qu'il appelle la gestion précédente, on ne peut déformer la réalité aussi facilement. La réalité, c'est que la France a perdu, pour soutenir sa monnaie, le quart de ses réserves en devises depuis le 11 mai, c'est-à-dire depuis l'annonce de la victoire socialiste.
Meeting après le second tour de Jacques Chirac, Pierre Mauroy qui est cité, va être nommé officiellement Premier ministre le 21 au matin. Il ne va pas beaucoup assister à la cérémonie du Panthéon, il s'occupe des choses sérieuses.
Il n'y est pas, il travaille comme beaucoup d'autres. Ne sont autour de François Mitterrand que des proches, des personnalités qui ne sont d'ailleurs pas très connues à l'image, très peu sont connues à l'image, mais c'était sa volonté d'être entouré de ceux qui ont joué un rôle pour lui important dans l'histoire.
L'intronisation, c'est le matin à l'Élysée. J'emploie le mot intronisation, c'est celui qu'emploie Jacques Attali dans Verbatim.
Oui, on peut le dire.
Oui. Ouais. Et ensuite, le dîner de 200 couverts. Il monte les Champs-Élysées.
Il remonte les Champs-Élysées, c'est important ce détail. Ouais. Puisqu'il remonte les Champs-Élysées et que le préfet de police pensait qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde. Et il m'a appelé à ce moment-là, il m'a dit « mais il y a tellement de monde, j'ai très peur que ce soir vous soyez submergé par la foule ».
200 couverts, les huissiers de l'Élysée regardent cette foule socialiste qui mange avec un peu de hauteur. Et Roger Hanin dit, vous n'êtes pas obligé de me resservir du foie gras, j'en ai déjà mangé. Et puis, c'est encore la tradition, l'hôtel de ville. Et c'est là qu'on retrouve Jacques Chirac. Et le dialogue, finalement, il est plus cordial que les propos qu'on entendait dans un meeting du 13 mai. Au fond, François Mitterrand doit pas mal à Jacques Chirac pour son élection.
À l'issue du septennat du président Giscard d'Estaing, qui quitte le pouvoir dans des conditions auxquelles chacun doit rendre hommage, s'ouvre une période nouvelle de la Ve République. La France a manifesté la volonté du changement. C'est une volonté qui doit être respectée. Et c'est le souhait, Monsieur le Président de la République, que j'exprime au nom de Paris, qui vous accueille aujourd'hui.
En ce jour où je prends possession de la plus haute charge. Je pense à ces millions et ces millions de femmes et d'hommes qui, deux siècles durant, par le travail et par le sang, ont façonné l'histoire de France sans y avoir accès. C'est dans leur nom d'abord que je parle, fidèle à l'enseignement de Jaurès, alors que troisième étape d'un long cheminement, après le Front populaire et la Libération, la majorité politique des Français, démocratiquement exprimée, vient de s'identifier à sa majorité sociale.
Voilà, l'hôtel de ville terminé, il prend le cortège, traverse la Seine, donc c'est un événement, il va dans le quartier des étudiants.
Alors il y a le peuple de Paris, le peuple des oubliés et la jeunesse de ce qu'on appelait la montagne Sainte-Geneviève.
Exactement, c'est un geste important à ce sens-là, c'est-à-dire qu'il va dans le quartier des universités, de la Sorbonne, etc., des lycées, de la recherche, et c'est vraiment un geste symbolique fort, et d'ailleurs, ils sont tous là, il y a beaucoup de monde qui l'attend, place Edmond Rostand et sur la rue Soufflot, à la grande surprise donc du préfet de police qui pensait qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde.
Le préfet de police s'entendait mal avec le directeur général de la police
nationale.
Oui,
ça marchait très très mal. Les uns me donnaient des instructions qui n'avaient rien à voir avec celui que me donnait son collègue, mais il en reste. Et là, j'avais des conseillers de l'Élysée qui me disaient « Vous aurez 10 journalistes et 10 photographes, point à la ligne. » La réalité n'a pas du tout été la même chose et ça a été un peu compliqué à gérer, notamment dans la foule, puisque ça nous a obligés à avoir certains problèmes sur le minutage de la cérémonie.
La foule est assez difficile à contenir. Il faut dire, pour ceux qui connaissent bien ce quartier latin, qui y ont passé de nombreuses années, que d'habitude, le contact entre la foule et le service d'ordre est assez différent. Et l'on voit donc, pour une fois, le service d'ordre composé de gardiens de la paix et de gendarmes canaliser cette foule au lieu de tenter de s'opposer à son passage, comme c'est le cas généralement lors des grandes manifestations étudiantes du quartier latin. Donc une atmosphère tout à fait différente, alors que maintenant nous avançons en direction de la place du Panthéon, à l'intérieur de laquelle pénétrera tout à l'heure le président de la République.
Je ne veux pas, Christian Dupavillon, concepteur de cette cérémonie du 21 mai, ébrécher votre représentation de François Mitterrand. C'était aussi une manière de réconciliation avec la jeunesse du quartier latin qui, en mai 68, ne lui faisait pas nécessairement le meilleur accueil.
Ça, certainement. Je pense que ça a été recherché. L'image de François Mitterrand entouré par la foule qui avait envahi absolument tout le quartier est une image qui est restée et qui n'a pas surpris, mais qui était assez émouvante. Et donc, moi, ce qui m'intéresse quand j'ai recherché ce type de manifestation, c'est qu'il y a toujours de l'émotion. Et là, je pense qu'il y a eu une émotion assez forte de le voir presque dépassé ou porté par la foule jusque sur le parvis du Panthéon.
Le cortège n'avançait pas. Heureusement que votre idée, quand même un peu bizarre, de prévoir deux étapes intermédiaires n'a pas été réalisée.
Alors, au début, dans la note que j'ai faite, je lui avais dit « Mais vous passez devant le palais de justice, vous, en tant qu'ancien avocat, vous devez replanter un arbre, ce qu'on appelle un arbre dans un cours de mai. » Et il m'a répondu « Mais moi, je préfère planter des arbres, pas dans les pavés, mais dans une forêt. » Et deuxièmement, je lui ai dit...
on a toujours des ennemis dans une ville, on pourrait empoisonner l'arbre. Non ?
Exactement, mais ça n'a pas été dit. Et deuxième chose, je lui avais dit qu'il devait aller s'incliner devant le monument aux 5 lycéens du lycée Buffon, qui ont été assassinés en 1943. Et là, faute de temps, il n'a pas pu y aller, mais il a fait fleurir ce monument du lycée Buffon.
On va arriver à la sélection des morts qu'il faut honorer. C'est hautement symbolique dans un instant. Mais d'abord, la sélection des vivants. Vous savez, après l'élection d'un président, les Français sont aux aguets. Avec qui le nouveau président se plaît-il? Avec qui se commet-il?
Entourant, encadrant François Mitterrand, marchant derrière lui, les représentants du monde de la culture, je reconnais là plusieurs prix Nobel de médecine, plusieurs écrivains, plusieurs personnalités connues.
Oui, il est certain que ces visages sont moins familiers que d'autres, mais on peut citer Alfred Kastler, André Lvoff, Jean Dausset, le récent prix Nobel de médecine. On sait aussi que le prix Nobel de la paix argentin Adolfo Pérez Esquivel est là, que le président d'Amnesty International Sean McBride est aussi au rendez-vous, que Carlos Fuentes et que les veuves de Pablo Neruda et de Salvador Allende sont également ici.
Et voici maintenant l'arrivée de François Mitterrand sur la place du Panthéon, certainement à l'endroit où il y a le plus de monde de part et d'autre de la rue Soufflot, la rue qui porte le nom de l'architecte qui commença la construction de ce Panthéon sous le règne de Louis XV, construction qui fut parachevée, terminée par Rondelet.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Christian Dupavillon, le concepteur de la cérémonie du 21 mai, qui à cet instant précis se demande si tout va obéir au timing, comme on dit, les invités. Il y a un journaliste qui dit « Oh là là, c'est pas des têtes très connues ».
Justement, je pense que ça a été recherché par le président de ne pas être entouré de toujours les mêmes têtes, celles qui étaient dans les meetings, et d'avoir ceux qui ont compté un rôle important pour lui. Mais quand il est descendu de sa voiture placée de Montrestan, ça a été d'un seul coup une cohue comme jamais j'aurais pu imaginer. Nous avons eu à peu près 200 à 300 photographes qui ont surgi de partout. Il n'y avait pas de service d'ordre pour ça, donc ça a été très compliqué.
Vous savez, quand on regarde les images du concert du 10 mai, 30 ans après, organisé par Pierre Berger, qui il y a 30 ans n'était pas là du tout, il était dans l'autre camp, on voit des gens qui appartiennent un peu tous à la même catégorie sociale. Le Paris, ça éclate là, dans les images de mai 81, est beaucoup plus populaire.
Ah, ça, c'est vrai. Mais je pense que ça a vraiment été une manifestation de la part de ceux qui l'ont élu. Ça a été vraiment quelque chose qui a un sens très précis. Et même moi-même, j'en étais très impressionné de voir cette foule qui a envahi absolument tout Il n'y avait pas un rebord de fenêtre où il n'y avait pas 20 personnes qui s'accrochaient pour essayer de voir un bout de la rose que tenait le président à la main.
Aujourd'hui, au premier rang, on verrait en revanche davantage de femmes. Alors, il y a la veuve de Pablo Neruda, la veuve de Salvador Allende. On est très près de la fin du régime socialiste chilien et ça expliquera beaucoup des craintes qui se sont déployées ce jour-là et dont vous nous parlerez tout à l'heure. Enfin, il y avait Dalida aussi.
Il y avait, oui, dans le cortège qui monte, il y avait Dalida. Mais on avait réservé un endroit au pied de la mairie du 5e pour les femmes épouses, les proches, etc., pour qu'elles n'aient pas à souffrir de la cohue, de la montée de la rue Soufflot.
Comment a été fait le choix des panthéonisés qui vont être honorés quand le président de la République va pénétrer dans les entrailles de la bête, je veux dire, dans la crypte?
Je crois avant tout, c'était Jean Jaurès. C'était la première proposition, la première idée, c'était je vais au Panthéon pour Jean Jaurès. Et puis, évidemment, tout de suite, il y a eu Jean Moulin et Schœlcher.
Attendez, tout de suite, Jean Moulin et Schœlcher. Alors, d'abord, on s'interroge sur Jean Moulin. Jean Moulin. Enfin, je ne veux pas ébrécher votre représentation de François Mitterrand, mais c'était quand même le général de Gaulle et André Malraux qui l'avaient amené au Panthéon. Il était le symbole de l'unification de la résistance sous l'égide du gaullisme, à quoi le mouvement que dirigeait François Mitterrand résistait un petit peu en 1943. Et puis, François Mitterrand a été un grand résistant, mais un vichisto résistant. Moulin, un résistant dès juin 1940.
Oui, mais bien, certainement. Mais Jean Moulin a joué un rôle très très important en tant qu'image, l'image de la France de cette époque. Et je pense qu'il y avait, il n'y a pas eu un doute là-dessus de la part du nouveau président d'aller mettre une rose sur la tombe de Jean Moulin. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai.
Et Schœlcher, c'était parce qu'il était dans l'axe de la caméra
quand on filmait la tombe de Moulin. Pas. Je pense que Schœlcher aussi, ça a été sans hésitation, ça a été proposé comme troisième panthéonisable,
à être honoré, à être mitterrandisé. Et Léon Blum?
Bah, Léon Blum, c'est différent, mais je crois que quelqu'un est allé mettre des fleurs sur sa tombe.
Oui, Jacques Attali se justifie. Je n'étais pas au Panthéon, mais j'étais avec une rose sur la tombe de Léon Blum, qui n'est pas au Panthéon, mais à Jouy-en-Josas. Pas un homme de lettres. Il y en a pourtant
non,
beaucoup.
Non, mais je pense que ce n'était pas le moment. Après ça, il y a eu des cérémonies autour de différentes personnalités pendant 1989.
Alors, une rose déposée sur chaque tombe, il faut quand même que vous éclairiez notre lanterne, c'est un grand débat. Qu'a fait Roger Hanin dans tout ça? On l'a laissé mangeant du foie gras à l'Élysée. C'est donc lui qui guidait
absolument
le président
pas.
De la République en lui disant, derrière chaque colonne, c'est non, par là qu'il faut que vous alliez.
Il y avait un gardien du Panthéon qui faisait office de guide. Il ne devait pas se montrer à l'écran, mais pour les répétitions, pour l'image, Roger Hanin a joué le rôle de François Mitterrand.
Mais voilà, en contradiction avec Jacques Lang qui, dans son dernier livre, explique que Roger Hanin a joué ce jour-là le rôle de Belphégor dans la crypte du Panthéon. Démultiplication des roses.
Alors, évidemment, il est rentré avec une rose, il est sorti avec une rose, il a déposé une rose sur les trois tombes, donc ça fait 5 roses. Mais il ne pouvait pas arriver avec un bouquet de 5 roses, donc ça a été toute une plaisanterie de certains journalistes en disant « mais il a fait un miracle, il a multiplié les roses ce jour-là ». Mais bien, ça c'est une question de mise en scène, c'était ma responsabilité, il ne pouvait monter qu'avec le symbole d'une rose.
François Mitterrand avance une rose à la main, symbolique bien sûr, et l'on sait que tout à l'heure, dans quelques minutes, c'est une rose qu'il va déposer sur deux tombes, celle du grand résistant Jean Moulin et celle du grand socialiste Jean Jaurès.
Une rose à la main a ouvert le chemin vers un autre demain. Les enfants, soleil au fond des yeux, le suivent de par deux, le cœur en amoureux. Regarde ces fanfares et musique, teintes amères et magiques. Périphérique, regarde, moins chagrin, moins voûté, tous ils semblent danser, leur vie recommencer. Regarde, on pourrait encore y croire, il suffit de le vouloir, avant qu'il ne soit trop tard.
Regarde au ciel de l'autre soir, une rose à nos mémoires dessine le mot
ceci, la chanson de Barbara, monsieur le metteur en scène, Christian Dupin. Vous n'aviez pas prévu, parce que l'image qui est restée, c'est celle de l'homme à la rose. Barbara passe par là, peut-être pas par hasard.
Non, elle est passée à Bastille, elle a été surprise par la foule, et elle a composé dans les jours qui ont suivi, elle a composé cette chanson qui s'appelait pas L'homme à la rose d'ailleurs.
Et, ça s'appelle Regarde.
Regarde. Et après ça, elle l'a chantée à l'hippodrome de Pantin et là, c'est devenu L'homme à la rose.
Alors, comment une image se fixe-t-elle? Vous aviez prévu que l'image serait forte, mais échappe aussi au bout d'un moment.
Non, parce que dès le début, avant, donc en préparant cet événement, j'ai proposé donc une double image, l'homme élu au milieu de la foule et l'homme seul, l'homme d'État, seul, avec ses responsabilités dans le Panthéon. Je pense que l'image suffisait. Il ne s'agit pas de chercher des images compliquées, il s'agit de chercher des images très simples qui sont chargées d'émotions. Pour moi, c'est très important. Dans le discours politique, qu'on trouve ce type d'image. Malheureusement, ça n'existe de moins en moins, ou ça existe de peu, de fabriquer de telles images.
Vous voulez dire que le communicant
n'a pas
la capacité de trouver cette émotion.
On nous noie dans des images et des images qui se tuent les unes aux autres, et il ne reste pratiquement rien, ou presque rien, donc, de ces événements politiques. Et je crois qu'il est très important d'avoir dans sa tête quelques images très fortes. Par exemple, quand Mitterrand a serré la main de Kohl à Verdun
un communicant n'aurait pas prévu ça. Il aurait dit Mitterrand est trop petit, il faut lui mettre des talonnettes, Kohl est trop grand.
Cette image est restée, comme d'autres sont restées, comme de Gaulle descendant en août
44
les Champs-Élysées. C'est une image qui est restée et c'est une image extraordinaire, très forte, parce qu'il est dans l'axe de l'Arc de Triomphe, il est très grand et on a l'impression qu'il arrive, quoi. Etc. Et là, je pense que cette recherche d'image, c'est étonnamment, n'existe plus. Maintenant, c'est un peu n'importe quoi. Si on serre des mains, on serre des mains, on serre des mains. Et à la fin, tout le monde s'en fout. Ou les images du G20, où on met aligné 40 chefs d'État, mais on ne sait pas si ça se trouve à Toronto, à Tokyo ou ailleurs. C'est-à-dire que ça n'a plus de sens.
L'image fixe, d'ailleurs, est peut-être plus forte que l'image de télévision. C'était une cérémonie conçue pour la télévision avec la réalisation de Serge Moati et de Jean Cazenave. On n'a pas parlé du son, de la musique. Alors, Barenboim est aux commandes avec l'orchestre de Paris. À la fin de la cérémonie, c'est l'ode à la joie et de l'utilité de Roland Dumas. Placido Domingo, amené, je crois, par l'avocat dans le dernier couplet de la Marseillaise.
Il y a une image qui est restée de cet instant à l'écoute, où on voit à l'écoute de la Marseillaise de Berlioz, et on voit François Mitterrand avec une goutte d'eau et sous la pluie qui attend. Alors pourquoi il attend? Normalement, tout devait être réglé.
Quand une goutte d'eau, ça va vite devenir un déluge.
Un déluge. Oui. Mais il attend parce qu'il devait normalement sortir du Panthéon au moment du final de la 9e. Mais
alors ça, c'est votre faute, vous aviez mal conçu les choses.
Un petit accident a fait qu'il y a eu trop de monde. La foule a été énorme et les motards de l'escorte présidentielle, au lieu de partir par la rue Gay-Lussac, qui était pleine de monde, et sont partis par la rue Soufflot. Et donc, Barenboim a fait tomber sa baguette. par terre en disant « j'arrête ». On ne l'entend pas beaucoup parce que dans la télévision, il y a les cris de la foule. Mais pour moi, j'ai commencé à trembler en disant « mais qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être dramatique ». Et donc, on l'a forcé à reprendre l'hymne à la joie et il l'a repris depuis le début. Donc, on a pris un retard de 10-12 minutes et j'ai commencé à me dire que l'ode à la joie était insupportable parce que tout le monde me courait après en me disant il faut arrêter cette hymne, notamment Gaston Defer qui me
tu
dit...
Tu vas arrêter cette putain
non,
de musique.
Dit, il me demande d'arrêter en me disant mais on va le tuer. D'un toit, il va y avoir un tireur et il va être assassiné, ce sera
on
votre
est,
faute.
On est proche du souvenir de 73 voilà. Du Chili.
Alors du coup, j'ai commencé à trembler, mais j'ai dit, je ne peux pas arrêter, pour la... c'est impossible d'arrêter l'hymne à la joie. Et donc, François Mitterrand est resté sous la pluie 14 minutes, ce qui m'a valu une certaine critique sur le coup, mais bien, c'est comme ça. D'ailleurs, je pense que c'est très important que dans une manifestation comme ça, qu'il y ait vraiment, qu'on soit un peu dépassé par la foule. Car je crois que ça fait partie aussi de l'événement d'avoir cette foule qui vous envahit, qui vous porte, etc. Eh bien, après, je ne l'ai pas regretté. D'ailleurs, dans l'image, c'est assez beau, c'est très beau, cette foule qui en veut plus et qui va être encore plus près du nouveau président.
On peut jouer avec ces images. Gilles Volman a imaginé dans un film qu'alternaient les séquences de votre Panthéon et les séquences du charme discret de la bourgeoisie, des notables qui n'arrivent pas à dîner, le film de Buñuel. Et les images s'entrechoquent et on ne sait pas pourquoi. Et au bout d'un moment, on comprend. C'est le monsieur qui veut voir le Panthéon et le revoir et le revoir, et la dame qui veut revoir Buñuel.
On raconte que, comme c'était en plein festival de Cannes, que les réalisateurs ont demandé que le Panthéon, le déroulement du Panthéon se passe entre deux séances, de telle sorte que tous les réalisateurs puissent voir en direct le déroulement de cette cérémonie.
Ce fut un peu grandiloquent, mais émouvant. C'est une citation de Michel Cotta. Ce fut grandiose et grotesque, comme toujours quand l'instant populaire ne se trompe pas. Ça, c'est de Paul Claudel à propos des obsèques de Victor Hugo.
Bien. Il n'y a rien à dire. Quoi. C'est vraiment... c'est beau. D'ailleurs, c'est très beau. C'est très beau. Moi, je suis très ému par la foule. Quand je vois Obama à Chicago élu avec les larmes de Jesse Jackson qui pleure, moi, ça me bouleverse. C'est magnifique. C'est dans une foule. C'est extraordinaire.
Le ciel pleura beaucoup cette nuit-là sur les multiples concerts que vous aviez au bout de cette journée épuisante pour vous, Christian Dupavillon, dispersé à travers Paris. Alors, il y avait les Haricots Rouges, des noms complètement oubliés de certains de nos amis les plus jeunes, ou bien le Quartetto Cédron.
Regarde, le Panthéon.
Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ?
C'est peut-être pas le Panthéon.
Ah non, 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 et non, c'est pas le Panthéon.
Et qu'est-ce que ce serait alors, d'après toi ?
J'en sais rien, mais c'est pas le Panthéon.
Merci à vous, Christian Dupavillon. Dans lemonde.fr, votre témoignage sur notre site, votre bibliographie. Vous êtes devenu maintenant un flâneur gourmand, puisque vous n'organisez plus d'architecture éphémère et vous repérez plein de choses dans Paris.
Oui, c'est une... J'ai appris à regarder avec mes études d'architecture et je vois qu'il y a beaucoup de choses que personne ne voit et qui sont aussi importantes et aussi bavardes que les choses que l'on connaît.
Le beffroi de la gare de Lyon, alors les...
Le beffroi, par exemple, de la gare de Lyon. Le beffroi de la gare de Lyon est quelque chose d'extraordinaire.
Il est 13h59.
Parce qu'il a toujours annoncé l'heure de départ des trains 5 minutes en avant. Et puis maintenant, il est à l'heure de France Inter.
À l'heure de France Inter.
Il est réglé sur France Inter.
Il est temps que je donne le générique. Hein, Sophie Moreno, Élise Christophe, Jacques Cigale et toute l'équipe de La Marge de l'Histoire avec Frédéric Martin, Camille Poux, Jalaguier qui a préparé cette émission et Franck Olivard.
Merci Jean Lebrun. Demain dans La Marche de l'Histoire, les radios libres avec Thierry Lefebvre, une rediffusion du 9 mai 2011. Dans quelques minutes, qu'importe le chemin, présenté par Brigitte Carnel, aujourd'hui son invité Gonzague Saint-Brie. Bel après-midi sur France Inter, il est 14h.